si on demandait à des gens versés dans les religions du monde, quelle est la confession de foi la plus célèbre? Je crois que la plupart d'entre eux répondraient celle des Israélites. En effet, c'est de là que sont issus les credos aussi bien chrétiens que musulmans, ces trois systèmes de croyances représentant les religions monothéistes par excellence. Le chapitre 6 du Deutéronome, le cinquième et dernier livre écrit par Moïse, est capital parce que justement, il contient l'essentiel de ce qui fait la foi juive et qui affirme, entre autres, que Dieu est unique. Je lis à nouveau le début de ce credo. « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Versets 4 et 5. Lorsque Jésus était sur terre, un religieux lui avait demandé quel était le commandement le plus grand de la loi de Moïse. Ce à quoi il avait répondu, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici celui qui vient en second rang. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » Fin de citation. J'ai déjà parlé du premier commandement. Le second, plus grand commandement, selon Jésus, est celui qui consiste à aimer son prochain. Le Seigneur, quand il a dit ça, a tiré un passage du livre du Lévitique que je lis. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Fin de citation. Je continue maintenant le texte du chapitre 6 du Deutéronome qui continue la confession de foi israélite. « Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Versets 6 à 9. Le roi David a écrit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Fin de citation. Dieu désire que j'intériorise ses commandements afin qu'ils fassent partie intégrante de ma vie quotidienne. Cette confession de foi israélite, constituée de 6 versets, fait partie de la formule qui ouvre l'exhortation liturgique du matin et du soir dans le culte de la synagogue. Elle se récite sur un ton particulièrement solennel. L'obéissance à la loi de l'Éternel devait représenter l'expression de l'amour d'Israël pour son Dieu. Un amour sans obéissance serait superficiel, une pure sentimentalité ou mysticisme, tandis que l'obéissance sans amour verse dans un légalisme froid et stérile. Dieu désire que mon obéissance vienne du cœur, qu'elle soit volontaire, et non pas dû à une contrainte forcée. Tout ce passage que je traite souligne que l'enseignement de la loi en famille et par le père est primordial, mais ne se limite pas à la transmission d'un simple contenu de la foi. Moïse recommande une pédagogie de situation au fil de la vie, au gré des activités, en tout lieu et à tout moment, et cela afin que les enfants apprennent à réfléchir sur la portée de leurs décisions, au pourquoi de ce qu'ils font et à l'application de la loi à toutes leurs activités. L'Israélite est exhorté à appliquer les commandements divins à toutes les circonstances de sa vie. Ceux-ci doivent déterminer ses actes, symbolisés par la main, et l'orientation de sa vie, symbolisée par le front. L'Israélite est invité à s'immerger dans la loi qui doit être omniprésente, toujours en vue, et à faire des commandements l'environnement dans lequel il vit. Le judaïsme a pris ses exhortations à la lettre. Les phylactères que portent les Israélites sur le front et sur le bras gauche lors de la prière quotidienne sont des petites boîtes en cuir qui contiennent des portions de la loi écrites sur un bout de parchemin. Quant à l'usage d'inscrire des textes sacrés sur les poteaux et les portes des maisons, cette coutume existait déjà chez les anciens Égyptiens et se retrouve maintenant encore chez certains peuples musulmans qui accordent à ces inscriptions une vénération superstitieuse. Les Juifs modernes fondent sur ce passage du Deutéronome leur coutume d'appliquer sur le montant droit de la porte de leur logement un morceau de parchemin contenant trois textes de la loi, dont leur confession de foi. À première vue, tout cela peut nous paraître étrange. Mais à y réfléchir, être imbibé de la parole de Dieu est une parade efficace contre le barrage incessant de la publicité omniprésente sur les ondes, les panneaux qui défigurent le paysage, les bus et où sais-je encore. Cette publicité nous empoisonne littéralement la vie car elle flatte les vices humains. De plus, ce n'est rien d'autre qu'un culte rendu au veau d'or, le dieu de l'argent, sous forme de tromperie, de chiffre d'affaires et de profit. Je continue notre texte. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde de toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Versets 10 à 12. Israël est mis en garde contre trois dangers qui le menaceront une fois qu'il sera installé dans le pays promis. Le premier est l'oubli de Dieu alors qu'il jouira d'une prospérité matérielle qu'il n'a point acquis par son travail mais dont il est entré en possession dans un pays déjà cultivé depuis des siècles. La tentation d'idolâtrie était accrue par le fait que le dieu cananéen Baal était censé assurer la fertilité et la prospérité. Le riche met sa confiance dans sa fortune. De l'abondance à l'idolâtrie, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Je continue le texte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux. Ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Versets 13 à 15. Le second danger auquel devra faire face Israël est celui de la contagion des nations païennes environnantes. Les Hébreux devront bien se garder de révérer, de servir ou de jurer par le nom d'aucun autre Dieu que l'Éternel. Le serment est un acte de culte, un hommage rendu à la divinité. Je continue. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Verset 16. Le troisième danger est de manquer de confiance et de soumission à l'Éternel dans les épreuves de la vie. Les avertissements précédents se rapportaient à l'abandon du seul vrai Dieu. Celui-ci concerne l'impatience et les murmures des hommes qui cherchent à faire agir l'Éternel autrement ou plutôt qu'ils ne le voudraient. Je continue le texte un peu plus loin. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de les révérer ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ses commandements en présence de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Versets 24 à 25. Ce sont les commandements de l'Éternel qui définissent ce qu'est la justice. Le cœur de la loi divine pour Israël est en trois parties. tout d'abord les 10 commandements, qui sont la véritable charte de l'Alliance et qui énoncent les principes fondamentaux de la vie d'Israël avec et sous l'autorité de l'Éternel. En second lieu, le caractère unique de Yahvé. Il est le seul vrai Dieu qu'Israël doit adorer et servir. Et troisièmement, l'amour entier que tout Israélite est exhorté à lui porter et qui se concrétise dans l'obéissance à ses commandements. C'est là la source du bonheur. Nous voici arrivés au chapitre 7 du Deutéronome. Alors que le chapitre précédent développait le devoir positif résultant de l'amour pour Dieu, ici il est question de la fausse tolérance accordée à l'idolâtrie. La haine du mal est une des formes de l'amour du bien. Je commence à lire. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les auras vaincues, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. Versets 1 et 2. Dieu veut détruire les Cananéens parce qu'ils se sont identifiés avec l'idolâtrie qui est la source de perversité et de crimes particulièrement atroces. Je continue le texte. Tu ne t'uniras pas avec elles par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderais pas à vous exterminer. Versets 3 et 4. Ces interdictions avaient pour but de prévenir tout culte en faveur des faux dieux. Plus tard, c'est effectivement par de tels mariages que l'idolâtrie pénétrera jusque dans les plus hautes sphères d'Israël. Le respect de la loi avec la destruction des idoles étaient les conditions essentielles du traité d'alliance conclu entre Dieu et Israël. Je continue plus loin. Tu es, en effet, un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Versets 6 et 8. Puisque les Israélites font de la part de l'Éternel un objet d'amour très particulier, ils doivent se garder de toute conduite qui pourrait l'offenser. Leur vocation est de rendre un culte exclusif à leur Dieu. La grandeur de l'élection d'Israël contraste avec la petitesse de la nation par rapport aux autres. Plutôt que de s'aligner avec les forts, l'Éternel préfère utiliser les faibles afin de révéler sa grandeur et sa fidélité en pourvoyant à leurs besoins. C'est pourquoi, loin de s'enorgueillir, Israël est exhorté à faire preuve d'humilité, de reconnaissance et d'obéissance envers l'Éternel. Je continue plus loin. Car si vous prêtez attention à ses lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, et il bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produiront vos terres, votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche, et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres peuples, et il n'y aura chez vous ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux. Versets 12 à 14. Si par amour pour l'Éternel, Israël y obéit, alors la première promesse qu'il lui fait est de le bénir abondamment. La deuxième est qu'il maintiendra son amour et son alliance envers eux. Je continue le texte. L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. Il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Verset 15. Les voyageurs anciens s'accordent pour parler de l'Égypte comme d'un pays où les maladies graves étaient monnaie courante, que ce soit les cécités, la lèpre, les dysenteries ou la peste. L'écrivain latin Pline l'Ancien appelle cette contrée la mère des maladies contagieuses. L'enseignement de ce texte est que plus l'état du peuple sera sain sur le plan moral, plus il le sera aussi sur le plan physique. Je continue. Vous supprimerez tous les peuples que l'Éternel, votre Dieu, livrera en votre pouvoir, sans avoir de pitié pour eux. Vous ne rendrez pas de culte à leur Dieu. Ce serait un piège pour vous. Verset 16. En ménageant ces peuples, en ayant pitié d'eux, Israël se perdra lui-même et signera sa perte à coup sûr. Ce verset est important car il indique clairement la véritable raison de ce qui a priori semble scandaleux. L'ordre d'exterminer les Cananéens comme une vermine dangereuse. Israël n'a pas assouvi une cruauté gratuite et arbitraire. C'est l'Éternel qui voulait maintenir son règne ici-bas. C'est lui qui est responsable. D'une part, il désirait préserver son peuple de la contagion de l'idolâtrie et de ses perversités morales et criminelles légendaires. D'autre part, il voulait également lui éviter le même châtiment que les Cananéens au cas où il se mettrait à tomber dans l'idolâtrie. Je continue en condensant jusqu'à la fin du chapitre 7. Peut-être, te diras-tu, ces nations sont plus puissantes que moi, comment pourrais-je les déposséder? N'aie pas peur d'elles, souviens-toi seulement de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. L'Éternel, ton Dieu, livrera ces peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. Versets 17, 18, 21 à 23. En troisième lieu, l'Éternel promet à Israël de le secourir dans ses campagnes militaires. Cependant, il ne va pas détruire tous les Cananéens d'un seul coup, car les bêtes sauvages se multiplient rapidement dans un pays dépeuplé. Or, les lions et les ours étaient très répandus en Palestine. Cette conquête du pays de Canaan avait été annoncée par l'Éternel à Abraham, le fondateur de la nation d'Israël. Je cite le passage. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Fin de citation. Les Cananéens, représentés par les Amoréens, avaient bénéficié d'un sursis de 430 ans pour se repentir de leurs abominations et de leurs actions criminelles, à l'image de celle de la ville de Sodome et de Gomorre. Mais ce fut en vain, et c'est l'inverse qui se produisit. La déchéance de ces peuples alla en augmentant avec le temps. Par exemple, ils faisaient brûler vifs des petits-enfants en signe d'adoration à leur dieu Baal. C'est ce qui explique le jugement sans merci de Dieu contre eux. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.